Monsieur le Président, chère Madame Lacombe, Mesdames, Messieurs, le film que vous avez vu tout à l'heure a porté un hommage frugal, il y aurait eu beaucoup à dire, à Sol et Civilisation et à son action depuis 20 ans. Vous me permettrez d'y associer ou d'y ajouter, en mémoire et en affectueux souvenir, Raymond Lacombe, Gérard de Caffarelli et Jean Dupuis, avec qui j'ai eu le bonheur très souvent d'échanger. Ses fondateurs, ses responsables, tous ceux qui ont contribué par leur expérience, leur analyse, à enrichir l'apport de Sol et Civilisation, qui est aujourd'hui un élément indispensable dans la réflexion sur l'avenir de nos sociétés. Dans cette belle journée, toutes les dimensions ont été survolées. Et pour ma part, j'ai beaucoup appris. Que puis-je ajouter ? Je voudrais tout d'abord vous dire que je ne vais pas m'immiscer sur le terrain des valeurs. J'ai entendu que certains des orateurs ou des intervenants prenaient acte que nous vivions dans une société des individus, pour presque s'en féliciter, en connotant cela avec l'idée que, dans le fond, l'individualisme contemporain a plus d'avantages que d'inconvénients. Franchement, ce n'est pas mon avis, mais ce n'est pas le jour d'en parler. Je voudrais simplement que ceux qui sont de cet avis ne se plaignent pas trop que la société manque de sens, parce qu'il y a un lien entre cet éclaboussement de l'individualisme contemporain et la perte de sens, d'affinité ou autre. Que puis-je donc ajouter en dehors du terrain des valeurs ? Je pense qu'il y a trois piliers dans la réflexion qui sont indissociables et sur lesquels je me permettrai de dire quelques mots : l'agriculture, le rural et le territoire. Je ne veux pas les confondre ensemble. Ce serait rendre un mauvais service aux trois. Mais je voudrais vous dire qu'ils sont indissociables et que pour dire en un mot commençant, il ne peut pas y avoir de développement rural sans agriculteur. Donc commençons par l'agriculteur. Vous avez eu, Luguillot aussi, des discussions sans fin avec les 27 pays, mais même avant, quand la Grande-Bretagne est venue, sur l'agriculture, avec cette idée de certains, benign neglect, comme ils disent, que dans le fond, il s'agissait que de jardiniers du paysage. Or, c'est une activité essentielle pour l'économie et pour le socle de l'être humain. Elle doit tenir compte de l'environnement, certes, mais pourquoi stigmatiser plutôt une activité qu'une autre ? Bien sûr, les agriculteurs sont sensibles au fait que, étant obligés de moderniser, d'accroître leur production, puisque, comme cela a été dit tout à l'heure, au moment de la fondation de la politique agricole commune, nous n'étions pas autosuffisants. Qu'il y ait des retombées, d'accord. Mais je crois que l'on ne peut pas, au nom de l'environnement, stigmatiser une profession et une activité aussi essentielles. Là-dessus, je crois qu'il faut être intransigeant. Ensuite, on peut dialoguer. Mais si on commence par accepter le discours de certains, disant tout cela, c'est parce qu'ils ont modifié, violenté la nature, ça, ce n'est pas possible. Elle doit prendre en considération le modèle mondial, la mondialisation. Certes, mais l'agriculture, et c'est là ma divergence avec les partisans du commerce mondial à tout craint, n'est pas une activité comme les autres. Ce n'est pas une raison pour plaider pour le protectionnisme, mais ce n'est pas une activité comme les autres. Et Luc Guyot a rappelé tout à l'heure quelque chose dont on a beaucoup souffert. La Fonds monétaire et la Banque mondiale avaient dans le fond deux idées. La première, je la répéterai rapidement, disait par exemple à la Côte d'Ivoire, vous avez du cacao et le café, ça c'est vraiment booming, donc ne vous cassez pas la tête, vous acheterez les produits alimentaires dont vous aurez besoin à l'extérieur. Depuis, ils commencent à reconnaître leurs erreurs. Et la deuxième idée, c'était, celle-là n'a pas tout à fait disparu, je vais vous donner des recettes pour mourir guéri. Et je pense en ce moment un peu à la Grèce, en espérant que le trio des technocrates voudra un peu ouvrir ses yeux et se rendre compte qu'à un moment où la souffrance est telle, la contradiction économique est telle que ce n'est plus possible de s'en sortir. Donc l'agriculture n'est pas une activité comme les autres. On peut discuter avec ceux qui disent que le commerce mondial permettrait de nourrir plus de personnes. Moi-même, je reconnais, je n'avais jamais douté de ça, que la mondialisation a permis à 800 millions de personnes de manger à leur faim, ce qui n'était pas le cas avant, mais enfin, cette idée est essentielle. Un bien agricole, ce n'est pas la même chose qu'un service ou un produit industriel quand on veut parler commerce mondial. Et je pense que ceci devrait rester une de nos lignes de force. L'agriculture doit avoir toute sa place dans l'union économique et monétaire, dans l'union économique et européenne. Certes, mais on oublie une chose, c'est que ces principes font partie du contrat de mariage qui a vu la création de l'Union européenne, à l'époque de la Communauté européenne. Elles font partie du contrat de mariage, ce qui est beaucoup plus important qu'une donnée économique. C'est une donnée politique. Et à un moment, on va discuter dans l'Union européenne, la crise de l'euro occultant tout, on n'en parle pas, on va discuter des perspectives budgétaires à partir de 2012 jusqu'à 2020. Je pense que c'est le moment de rappeler cela, que ce contrat de mariage, dans ses principes, est intangible. Parce que la France a considéré, et pas seule à l'époque, la France a considéré que l'agriculture était nécessaire économiquement, socialement, du point de vue de l'aménagement du territoire. Et si les Allemands sont un peu trop pressants, voire insupportables, je les renvoie, aux concessions que la France a faites au moment de la politique agricole commune. Car nous aurions pu, nous, vivre avec des prix moins élevés et enlever tout le marché. Nous avons concédé cela. Et depuis, les Allemands se sont bien rattrapés, puisqu'avec les territoires de l'Est, ils ont une matière première extraordinaire. Donc je pense que les principes ne sont pas négociables et qu'il faut le rappeler. Et c'est là où la politique est importante. Comme l'a dit très bien Dominique Volton, à coup de serpe, comme toujours, mais la rationalité économique, où est-elle? Et donc, je crois que ceci, on doit le rappeler. Ce n'est pas une raison pour faire, comme certains font, de gros câlins aux agriculteurs en disant « vous défendre tous intégralement ». Comme l'a dit tout à l'heure Luc Guyot, encore, il a dit « nous savons aussi nous engager ». Alors, on fait une négociation. Le mouvement agricole ne gagne pas à 100%, à 70%, mais il s'engage. Il ne reste pas sur la berge. Par conséquent, sur cette base-là, il est possible de faire évoluer l'agriculture. Je pense quand même qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a deux points, parmi ceux que vous avez cités, qui sont importants. C'est défendre l'agriculture dite de voisinage. Elle ne représentera jamais plus de 15% de la production, mais il faut la défendre, parce que c'est elle qui permet d'animer la vie rurale. Et comme ma famille est dans l'agriculture, je ne veux pas dire du mal de l'administration, mais j'ai vu souvent des DDA donner des conseils un peu fous à ma famille, là où ils pouvaient faire de la polyculture facile, on leur a fait rêver d'ateliers de porcs, etc. Et le résultat n'a pas été brillant. Par conséquent, il faut aussi ne pas penser simplement productivité, compétition ou autre. Le deuxième point, c'est obtenir une harmonisation progressive des coûts de production. Pour la France, c'est très important en ce moment. Et là, il y a un argument. Au niveau des 27, on peut discuter. Mais au niveau de ceux qui ont une monnaie unique, il est impensable de pouvoir continuer avec monnaie unique s'il n'y a pas un minimum d'harmonisation fiscale et sociale. Ça ne sera pas possible. Ça devient intolérable, impopulaire et autre. Par conséquent, il y a là deux lignes de force, me semble-t-il, qui devraient permettre de défendre l'agriculture comme un élément de notre réflexion ou de notre passion. J'en viens maintenant au rural. Je me rappelle l'exposé fait par Bertrand Hervieux, les transformations des campagnes françaises au début du XXe siècle. Pour moi, ça demeure une référence, même si Depuis, on a ajouté, et j'y viendrai tout de suite, des éléments, y compris dans la séance d'aujourd'hui. Il a analysé 6 ruptures. Moi, je n'en ai retenu que 2. Premièrement, le phénomène de spécialisation et de concentration des productions jusqu'où ? Et toujours avec le même souci, la petite agriculture. C'est vrai que l'on a concentré les éléments de production plus près des grands centres de consommation, mais jusqu'où ? Deuxièmement, le rapport au travail. Le rapport au travail, d'abord, par le caractère exemplaire du travail d'agriculteur, et deuxièmement, parce que, comme vous l'avez dit très bien ce matin, 35% des ouvriers résident en milieu rural. Mesdames et messieurs, si vous suivez un peu l'actualité, comme moi, vous avez vu que, pour l'instant, il n'y en a que pour l'urbanisation. On entend parler que les penseurs de l'urbanisation. Mais jusqu'où va-t-on aller ? Sait-on que la pauvreté dans le monde rural est plus importante que dans les villes, y compris dans les, si je tiens compte, des quartiers défavorisés ? Sait-on, par exemple, que quelqu'un qui gagne 600, 700, 800 euros, ou qui a le minimum, le RSA ou autre, quand on lui dit « il faut trouver un travail », « mais monsieur, il faut vous déplacer », et qu'il a une voiture, même si elle roule très peu, c'est 400 à 500 euros par mois. Comment fait-il ? Donc il y a une pauvreté profonde dans le milieu rural qui tient à beaucoup d'éléments et qu'il faut rappeler ici. Nous sommes donc confrontés dans le monde rural, comme cela a été très bien dit, je veux simplement le répéter, à la fragilisation du lien social que l'appartenance à ce même espace ne peut à elle seule reconstruire. Et cette fragilisation du lien social qui tient aussi au fait qu'habitent dans le monde rural, comme vous l'avez très bien dit, des populations différentes, bien sûr, de plus en plus différentes, mais cette évolution tient aussi en termes financiers, j'en ai parlé, et en termes sociétaux. Et tout ce qui a été dit ce matin, je l'ai bien retenu, je pense vous aussi que c'est important. Je crois que M. Perrier-Cornet, ce matin, a donné un concept, même si on sait tout, mais ce concept est important, il a parlé du phénomène d'étalement urbain. C'est différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent, et ça mérite une analyse vraiment poussée pour voir qu'est-ce qui va en résulter de cet étalement urbain, du point de vue économique, social, niveau de vie, sociétal, convivial. Mais même si ça dure depuis des années, nous n'en sommes qu'au début, et il faut voir ce que cela va donner. Et je pense que c'est là un thème d'étude très important, aussi pour essayer de mieux défendre le monde rural. En réalité, dans l'état actuel de mes connaissances, qui sont limitées bien sûr, je me pose la question suivante. Le rural est un bien public. Les services d'intérêt général disparaissent un peu dans le monde rural. Il y a un coût pour éviter cela. Si c'est un bien public, est-ce que la nation ne doit pas être donnée consciente de ça, ne doit pas lui dire que pour maintenir le milieu rural, c'est un bien public et il y a un coût budgétaire, un coût pour le contribuable et après tout, un coût pour ceux qui, dans cet espace de retour à la nature, magnifié par le mouvement vert, ils viennent dans les milieux ruraux, un petit peu comme Jean-Jacques Rousseau ou d'autres têtes, mais il faut qu'ils en connaissent le coût. Et ce milieu rural, il a besoin d'être entretenu, vivant. Et c'est ça, dans le fond, qui explique que plus que jamais, je pense que le rural est un bien public. Évidemment, moi j'ai connu des mésaventures dans ce domaine. Je ne voudrais pas trop parler de moi, mais je voudrais dire simplement que dans l'acte unique de 1987 qui a relancé la construction européenne dans le contexte de l'époque et la politique de cohésion économique et sociale, j'avais obtenu l'accord pour un objectif de développement rural. Il s'appelait 5B, excusez-moi de ces détails. Eh bien, oublié, depuis 1995, oublié. Alors on a fait une deuxième phase de la PAC, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui était important dans le fait que l'Union européenne, la communauté européenne, prenne en charge le développement rural ou s'y intéressent. C'était autant que la méthode, le bottom-up, l'accompagnement par la Commission européenne, la diffusion des expériences réussies. Et ce matin, avec René Caspar, j'ai ajouté une chose qui était plus importante, c'est la méthode. Et tout ce qui a été dit ce matin dans la table ronde, c'était une question de méthode. À la recherche de toutes les valeurs ajoutées possibles, de toutes les synergies possibles, mais avec une méthode. Et ce matin, on nous a décrit pour trois dossiers la méthode. Et c'est ça que je voulais que la Commission européenne diffuse, la méthode, parce qu'évidemment, il y a une différence entre l'exemple italien que vous avez pris il y a 3 ou 4 ans et les exemples qu'on a dit ce matin. Donc la cohésion économique et sociale est devenue une foire d'empoigne. Maintenant, il s'agit d'obtenir des chèques. Et en France, un domaine qui a retrouvé tous les délices de la centralisation, puisque c'est la DATAR qui s'occupe de cela. Et à part ça, on chantera les mérites de la subsidiarité. Mais franchement, il faut revenir à cette idée qu'il y a des expériences, on les fait connaître, on fait connaître également la méthode. Le troisième élément, c'est le territoire que vous avez ajouté ce matin et ce qui est vraiment important. Se réapproprier les territoires, un enjeu de civilisation, disait Sol et Civilisation en 2007. Le territoire, c'est différent du rural, mais bien sûr, je ne prends pas le territoire au sens large, je le prends comme il a été étudié dans la deuxième table ronde. L'homme sur la terre construit des territoires. C'est l'idée que vous diffusez. L'homme est, en quelque sorte, le gardien et le créateur de ces lieux. Le territoire est la matrice des relations humaines. La pleine conscience des interactions homme-milieu se perçoit dans le territoire. Donc le territoire est appelé à devenir, si nous ne devenons pas fous, un élément essentiel de la reconstruction d'une société. Une société où le lien social reprendrait de l'importance. Un territoire ne s'opposant pas aux autres, à l'autre, bien entendu. Et tout ça, cette notion de territoire, a été illustrée par les stratégies qui nous ont été exposées ce matin. Bien sûr, nous sommes dans le monde tel qu'il est, avec le déclin, et nous cherchons la synthèse entre sécurité et stimulation. Et c'est là, il n'y a pas de meilleur élément pour se rappeler ça que la nature. Parce que la nature, elle est là, elle est exigeante, elle nous dessert parfois, elle nous trompe. Mais le paysan est la seule personne qui, ayant vu que la nature n'a pas correspondu à ses pronostics, dit « dont acte » et remet ça le lendemain. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Les rêves de domestiquer la nature, de l'industrialiser, de la mettre à notre service, tout ça, ce n'est rien. Le paysan, c'est ça. Quand j'allais avec mon grand-père, il allait voir le blé, il faisait du blé noir, lui. Il y avait eu 8 mauvais jours. Vous voyez que la récolte serait pas bonne, quasiment nulle. Il disait, mon garçon, on recommencera l'année prochaine. Cette école de la confrontation avec la nature, à la fois riche, généreuse et hostile dans une certaine, ou difficile à maîtriser, je crois que c'est un élément essentiel de l'humanisme. Ça va au-delà même du développement rural ou du développement des territoires. Donc, sécurité et stimulation, on a besoin de la leçon du paysan pour comprendre ça. De même, solidarité et responsabilité. Le monde agricole, avant même la PAC et tout cela, avant même les premières lois sur l'agriculture, savait ce que c'était que la solidarité dans les visages. Donc solidarité, mais responsabilité en même temps. Donc le monde agricole connaît tout cela. Il est capable de transmettre des réflexions et des synthèses entre sécurité et stimulation, solidarité et responsabilité. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur tirer toutes les leçons de ce qui a été dit aujourd'hui, mais je pense que le bottom-up, le décollage par le bas, l'initiative a été illustrée aujourd'hui. Les spécificités ont été mises en valeur Combien ceux qui ont parlé aujourd'hui ont expliqué qu'ils allaient rechercher le petit trésor caché sur telle particularité de telle personne ou de telle région. L'interdépendance acceptée, au point même d'employer la formule de clusters ruraux que j'ai lu dans vos textes, la territorialisation de la PAC, les forces locales mobilisées, l'image rurale ressurgit dans ce monde qui pourtant est un monde des apparences et des médias, avec une formule célèbre qui est celle d'ailleurs d'un vendeur de biens rapides, vite, vite avalé, vite digéré, vite oublié. Et dans ce monde-là, la nature tape à la porte et dit non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour construire des hommes et des femmes, vous avez besoin de moi, de vous affronter à moi. L'image donc rurale ressurgit dans ce monde des apparences et des médias. Les petits signes d'un autre modèle de développement se fait jour. Seules les civilisations y travaillent. Soyons quand même optimistes et restons courageux. Merci.
Bonne chance. Merci.